Vous écoutez, on lit pour vous.
Cher patient, je m'en vais au privé. Un texte de Stéphanie Gramont, paru le 20 juillet 2024 dans la presse. Cher patient, chère patiente, à la suite d'une longue réflexion sur l'avenir de ma pratique en médecine familiale, j'ai décidé que je n'exercerai plus la médecine dans le système public, RAMQ. Par conséquent, je ne pourrai plus vous suivre comme médecin de famille dans le système public. Alors que l'exode des médecins du réseau public s'accélère, les Québécois sont de plus en plus nombreux à recevoir ce genre de lettres les invitant à suivre leur médecin de famille au privé. Mais à quel prix? Gaétan Faubert a trouvé ça pas mal raide quand il a appris qu'il devrait s'abonner à un forfait annuel de 4 300 $, prévoyant 10 visites pour rester avec le médecin de famille qui le suit depuis une quinzaine d'années. La clinique exige 2 200 $ par année pour les patients qui sont jeunes et en santé, ce qui couvre un bilan annuel avec le suivi et 2 autres visites durant l'année. Le tarif grimpe à 3 200 $ pour ceux qui ont plus de 65 ans ou qui ont des maladies chroniques et à 4 300 $ pour ceux qui ont plus de 80 ans parce que les forfaits incluent davantage de visites. C'est prohibitif pour l'homme de 82 ans qui ne consulte son médecin qu'une fois par année. Sinon, la clinique lui propose de payer 1 345 $ pour un bilan annuel, dont une batterie de tests et un suivi pour les résultats. Cette facture reste faramineuse quand on sait qu'une visite dans un cabinet médical dans le réseau public rapporte généralement 50 à 130 $ aux médecins de famille selon la complexité du cas. Mais les patients sont coincés. 650 000 Québécois poireautent sur la liste d'attente pour un médecin de famille. C'est sans compter les 833 000 autres qui attendent une consultation avec un spécialiste dont plus de la moitié sont hors délai. Ce manque d'accès pousse les patients vers le privé où les médecins peuvent se constituer une pratique lucrative à l'abri des contraintes du gouvernement. Sauf qu'en migrant au privé, ces médecins saignent encore plus le réseau public, ce qui alimente un cercle vicieux. Plus il y a de médecins au privé, plus la liste d'attente s'étire au public. On le voit bien en dermatologie, la spécialité qui compte le plus de médecins privés, mais aussi celle où la liste d'attente au public est parmi les plus longues, 97 000 personnes. Dans l'ensemble, 774 médecins travaillent désormais au privé, selon des chiffres fournis par la Régie de l'assurance maladie du Québec, RAMQ. C'est presque 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Le phénomène est particulièrement frappant chez les omnipraticiens, dont 514 sont non-participants à la RAMQ. Cela représente 5 % de l'ensemble des médecins de famille. Ce n'est plus une histoire marginale sur laquelle on peut fermer les yeux. Plus préoccupant encore, les jeunes médecins sont les plus nombreux et de loin à se soustraire de la RAMQ. Parmi ceux qui ont moins de 50 pratiques, 162 pratiquent au privé. C'est 6 fois plus qu'il y a 10 ans. Certains diplômés passent directement à la pratique privée sans jamais travailler dans le système public. Les contribuables sont les dindons de la farce, eux qui financent leurs coûteuses études au moyen de leurs impôts, les plus élevés en Amérique du Nord, sans avoir droit au service. Le contrat social est rompu. Il est temps d'avoir une sérieuse réflexion sur la médecine à 2 vitesses. D'une part, il faut reconnaître que la fuite des médecins vers le privé est le symptôme du mal qui ronge le réseau public et qui décourage les médecins d'y travailler. Par exemple, les jeunes médecins se plaignent des contraintes imposées par les plans régionaux d'effectifs médicaux, PREM, qui les force à accepter un poste dans une région qui ne leur convient pas. Y aurait-il des manières plus douces d'assurer une répartition équitable des services à travers la province? Une solution pourrait être de sélectionner davantage d'étudiants originaires de régions et de les encourager à y retourner, notamment avec des stages tout au long de leurs études. Mais d'autre part, Québec pourrait aussi mettre un couvercle sur la marmite de la médecine privée qui reste très limitée dans les autres provinces. En Colombie-Britannique, par exemple, les médecins privés ne peuvent pas exiger des tarifs plus élevés que ceux du public dans plusieurs établissements. Plus Québec attend pour freiner la médecine à deux vitesses, plus ce sera compliqué de remettre le dentifrice dans le tube. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, en sait quelque chose. Il s'est engagé à sevrer le Québec des agences de placement privées qui ont saigné le réseau public de ses infirmières. Mais cet été, l'équipe volante qu'il devait envoyer sur la côte nord pour prendre le relais des agences a tardé à prendre son envol. Serrer la vis aux médecins privés ne sera pas facile non plus. Mais si Québec reste les bras croisés, il y a un risque qu'Ottawa menace de réduire ses transferts en santé. Pour avoir droit à ces transferts, les provinces doivent offrir des services publics accessibles gratuitement à l'ensemble de la population pour l'intégralité des soins nécessaires en vertu de la loi canadienne sur la santé. Il n'est pas normal que les Québécois se fassent larguer par leurs médecins, à moins de sortir des milliers de dollars de leur portefeuille. C'était « Cher patient, je m'en vais au privé », un texte de Stéphanie Gramont, paru le 20 juillet 2024 dans La Presse.
Projet Québec-Afrique. Comment Nadine Bernier fait une différence au Rwanda? Une chronique de Karine Tremblay, parue le 15 juin 2024 dans la Tribune de Sherbrooke. Ça s'est passé au Rwanda en 2010. Le véritable déclic. Nadine Bernier bouclait le circuit de l'expédition d'aventure qu'elle avait organisée avec son conjoint Dominique Asselin pour une poignée de gens d'affaires québécois. Le groupe se posait à Kigali après avoir vu les gorilles de près. La ville était animée, plutôt développée, bien organisée. La pauvreté et la misère, ça ne semblait pas faire partie du paysage. C'est en sortant de la capitale que la Sherbrookoise a vu l'autre versant du Rwanda. Celui qui fait que le pays figure sur la liste des 20 plus pauvres au monde. En se rendant quelques kilomètres plus loin, elle a découvert une réalité qui a accentué encore son désir d'aider, déjà franc. Moi, j'avais envie de faire de l'aide humanitaire depuis un moment. J'avais 3 jeunes enfants à l'époque. Pour m'impliquer, il fallait trouver un petit projet super bien organisé que je pourrais parrainer. C'est comme ça que j'ai été mise en contact avec Cyprien. Le Rwandais acquiesce. Père dominicain, il était coordonnateur de l'Association du Bon Pasteur à l'époque. Sœur Agnès lui avait parlé de cette Québécoise qui voulait leur envoyer un premier 5 000 $ à la condition de pouvoir venir voir avec son groupe ce que l'argent permettait de faire. Le montant servirait à financer une culture de champignons mise sur pied pour des femmes victimes de violences du génocide. À 15 kilomètres de Kigali. On a roulé pendant 1 h 30 pour s'y rendre, en raison de l'état des routes. Et là, j'ai pris la mesure de la différence qu'on pouvait faire. Elle a passé 1 journée et demie dans ce coin de campagne éloigné, auprès des Rwandaises. Souvenir impérissable, marquant aussi. Comme l'image de cette nouvelle maman, un bébé de 2 mois et demi sur le dos, qui transportait tout de même des poches de sable pour la champignonnière. Elle voulait faire sa part, parce qu'elle savait que ça pouvait changer leur vie à toutes. On lui a dit d'aller se reposer, de s'occuper de son bébé, qu'on se chargeait du sable. C'est ce jour-là que Nadine a fait connaissance avec Cyprien Nibankoudié. Tout de suite, ça a connecté. La communication était facile entre nous. Leur amitié dure depuis ce temps. Leur partenariat humanitaire aussi. De retour chez elle, Nadine a orchestré différentes activités de financement. J'ai amassé les premiers milliers en organisant des parties de cuisine ici, chez moi. C'est justement là que je les rencontre tous les deux. Chez Nadine. Dans sa maison, avec vue sur le lac Magog. C'est magnifique dehors. Autant que l'est ce qu'elle a réussi à construire avec la complicité de Cyprien au fil des ans, dans un Rwanda qui pansait ses blessures. Il y a 30 ans, cette année, que le génocide fracturait le pays. La vie d'après s'est construite sur la base d'un vivre ensemble qui gommait toute vengeance de l'équation. Pour éviter de reproduire le cycle de la haine. Il y a, depuis, plusieurs semaines de deuil national chaque année. C'était difficile les premiers temps, pour tout le monde, parce que la souffrance était partout. Chaque fois, c'était comme remuer un couteau dans une plaie. Mais ces dernières années, on insiste davantage sur la résilience. Ça change les choses, raconte Cyprien Nibankoudié. Cyprien évite de trop aborder la politique les lendemains difficiles. Le Rwanda se remet. Et lui, il essaie de faire sa part pour aider le pays à se relever. Il est en visite pour quelques semaines au Québec, qu'il connaît bien pour y avoir étudié. C'est après avoir complété sa formation en gestion et innovation sociale au HEC qu'il a eu l'idée de créer une ferme-école pour contrer la malnutrition, agir sur la déforestation, bâtir du mieux. Il fallait y croire quand même. J'ai compris qu'avec les changements climatiques, l'humanité a un problème sérieux devant elle. Et tout ça principalement à cause de l'action humaine. Je me suis demandé ce que je pouvais faire avec la population dans mon milieu, confie Cyprien Nibankoudié. Dans son district, le taux de retard de croissance était de 46 % et l'insécurité alimentaire touchait 57 % des familles. Il a lu, il a réfléchi, il a choisi d'agir. J'ai créé la Voie des profondeurs pour travailler en milieu rural. J'ai fondé l'institut qui me permettrait d'avancer. Moi, je suis né paysan dans les montagnes du Nord-Est. J'ai eu la chance de faire des études supérieures. Je voulais en faire profiter les communautés qui vivent en campagne, loin des grandes villes, en agissant sur la protection de l'environnement, sur le tourisme social, ajoute Cyprien. Avec des économies de 15 000 $, il a acheté 2 hectares de terrain à l'orée de la forêt Guéchouati. Sur ce lopin de terre où rien n'existait encore, il a réuni la population locale, exposé le projet qu'il avait. Avec la petite foule rassemblée, il a rêvé grand. Il ne savait pas qu'un an plus tard, le gouvernement rwandais commencerait à construire la route qui se rend à la limite de ses terres. 7 ans ont passé depuis et la ferme-école est construite à 95 %. En grande partie grâce à l'aide de Projet Québec-Afrique, l'organisme caritatif qu'a créé Nadine. La ferme-école, imaginée par Cyprien, s'ajoute à ce que fait déjà Projet Québec-Afrique pour améliorer l'éducation, la santé et les conditions de vie de base de la population. C'est très inspirant ce qui se passe. Il y aura par exemple l'installation de panneaux solaires sur les terres pour l'alimentation en énergie, mais ils sont conçus de telle façon qu'ils servent aussi de système d'irrigation, souligne Nadine. J'ai vu comment ça se déploie, je suis en confiance. Quand je parle à un donateur, je peux lui dire ce que son argent permet de faire. Ce qui est beau du projet de Cyprien, c'est qu'il a l'appui des autorités locales, qu'il agit pour la lutte contre les changements climatiques et qu'il est basé sur les besoins de la population. Pour contrer la malnutrition, par exemple, il distribue des poules aux villageois, note Nadine. Les effets sont concrets, immédiats. Ils changent des vies. Ça, c'est vraiment important. Tu vois, quand je suis revenu du Rwanda la première fois, j'ai trouvé le retour très difficile, me confie Nadine. Je me demandais pourquoi moi j'étais né de ce côté-ci du monde. Pourquoi tant de disparités existaient sur la planète. J'ai pleuré pendant un mois. Aider. S'aider. En 2017, elle est retournée au Rwanda avec une amie. Pendant 3 semaines, elles ont travaillé là-bas. Je n'ai pas ressenti la même peine au retour. Quelqu'un m'a fait remarquer que c'était probablement parce que j'avais été dans l'action, que j'avais posé des gestes. Je pense que c'est vrai. Et c'est là qu'elle insiste. L'aide, elle n'est pas à sens unique. C'est partagé parce que 50% du projet Québec-Afrique, c'est ce qu'on laisse là-bas, la différence qu'on fait. L'autre 50%, c'est comment on revient transformé, comment l'expérience vécue fait de nous de meilleurs êtres humains. On est parti à 18 l'an dernier. On a fait différentes actions, qui vont de la visite de cliniques médicales pour mieux les équiper à la réparation d'un terrain de basket, dit Nadine Bernier. Environ 2000 élèves se sont retrouvés autour du terrain réparé après les travaux. Cris de joie, match amical, fête dans la communauté. C'était déjà touchant de voir l'effet rassembleur sur la communauté, mais quand les villageois nous ont dit que c'était la première fois que les enfants vivaient un événement sportif, c'était encore plus bouleversant. Ce que ça dépose dans le cœur est précieux. Tous, on est revenus changés par cette expérience. Projet Québec-Afrique, c'est vraiment un partage entre deux cultures, ce sont des rencontres qui font grandir notre humanité. C'était Projet Québec-Afrique, comment Nadine Bernier fait une différence au Rwanda, une chronique de Karine Tremblay parue le 15 juin 2024 dans la Tribune de Sherbrooke.
Le silence de la plaine, un texte de Monique Durand, paru le 27 juillet 2024 dans Le Devoir. Le silence est devenu monnaie rare. Le bruit partout nous mène. Au gré de ces chemins récents, notre collaboratrice Monique Durand nous entraîne dans les bruissements du silence, un baume pour nos corps et nos esprits en ces temps tapageurs, un bien commun à chérir et à protéger. Sud de la Saskatchewan, mai 2024. J'y suis venu pour une phrase d'Aragon. La vie est une avoine et le vent la traverse. Cette phrase m'a semblé toute faite de silence, et j'ai voulu voir l'avoine, l'orge et le blé se balancer doucement au vent de la plaine. Mais aussi pour Gabriel Roy, comment pourrait-il en être autrement, né dans la plaine manitobaine, dont toute l'œuvre et le génie sont liés à cet espace? Et, du jour au lendemain, nous voici égarés en tant de silence et sous tant de ciel. Et puis, j'y suis venu à cause de l'épopée de ces Canadiens français qui allaient coloniser les terres de l'Ouest. Épopée tout enveloppée aussi de silence, celui d'une histoire méconnue. Durant le premier quart du XXe siècle, plus de 10 000 Canadiens d'expression française, dont plusieurs avaient d'abord émigré du Québec vers les États-Unis, vinrent s'établir dans la plaine de la Saskatchewan. Mes grands-parents paternels, Léopold et Marie, furent de ceux-là, le premier parti du Québec, la seconde des États-Unis. La Saskatchewan était entrée dans la Confédération en 1905 et le gouvernement offrait des terres quasi gratuites aux colons qui s'y installeraient. Des villages tels Gravelbourg, Pontex, La Flèche et Willow Bunch se constituèrent la plupart du temps à l'initiative de prêtres missionnaires catholiques. Un peuplement francophone a ainsi vu le jour dans le sud de la Saskatchewan. Cette épopée des Canadiens français et des Franco-Américains dans les prairies est intimement liée à celle tout autant méconnue des Métis. je reviendrai à ces histoires emmaillées, ô combien complexes. Pour l'instant, je navigue vers Willow Bunch. L'océan de la plaine commence dès qu'on quitte l'aéroport de Regina. On roule sur la route 6 vers le sud, une ligne bien droite qui se perd dans l'horizon, où la moindre courbe est un événement. À gauche, plat pays à perte de vue. À droite, plat pays à perte de vue. Aucun village, aucun restaurant, aucune halte en vue. Ça et là, des îlots de verdure qui dissimulent une demeure dont on devine l'appartenance au propriétaire des acres de sol avoisinants. Pas d'humain visible, une moissonneuse au loin qui soulève des nuages de poussière. Surprise, soudain, la plaine se vallonne. On longe le curieux lac Willow Bunch, long d'une trentaine de kilomètres, dont une portion, là, devant moi, est totalement asséchée, blanche de sel. Une mer morte au milieu du désert. Je pense à l'autre, celle qui jouxte Israël, la Cisjordanie et la Jordanie, déjà entrevues en des jours moins tourmentés. La mer morte, à la salinité extrême, où on peut flotter en lisant son journal. Mais en cette seconde, je préfère flotter dans mes pensées, loin des journaux colportant le malheur depuis des mois. La patrie du géant Beaupré. Le village de Willow Bunch surgit soudain. Comme se lève un rideau de scène, il a déjà porté le nom de Tal de Saul, où 1500 personnes résidaient en son âge d'or. Aujourd'hui, 245 personnes y vivent. Oasis de collines verdoyantes et d'arbres au milieu du tablier sans limite de la plaine. Je cherche les Tal de Saul. Pas une seule, mais une station-service, un motel, un restaurant, une épicerie, une église. Pas d'école. Et, mangeant littéralement le profil de Willow Bunch, un ancien couvent des Sœurs Grises devenu musée met en scène l'histoire des lieux et de son géant. Oui, le géant Beaupré. Figure légendaire et tragique, Édouard Beaupré y est né en 1881 d'un père canadien-français né à l'Assomption, Gaspard Beaupré, et d'une mère métisse, Florestine Piché. Aîné de 20 enfants, il est mort en 1904 à Saint-Louis du Missouri, après avoir été exhibé et exploité comme un animal de cirque. Le couple Beaupré-Piché s'était réfugié ici lors de la rébellion des Métis de la Rivière-Rouge en 1870. Autre célébrité originaire de l'endroit, les sœurs Campagne, qui ont formé le quatuor musical folk Art Rouge et occupé les scènes d'un peu partout au Québec, au Canada et en Europe pendant quelques années. Première nuit sous le ciel de Willow Bunch. Des parfums fous sortent de la terre. Sont-ils d'avoine, de blé ou d'orge? Non, j'apprendrai qu'il s'agit plutôt de canola, un type de colza d'origine canadienne qui tient son nom de la contraction des mots « Canada » et « Ola » pour « huile ». Je dormirai sous la voûte étoilée des plaines, dans les effluves de canola. 20 mai 2024. En ce jour du congé de la reine Victoria, ici, des patriotes au Québec, je mets le cap sur l'ancien village d'Horizon, un peu à l'écart de la piste des villages fantômes. Il s'agit d'un tronçon de la route 13, au long duquel sont situés une trentaine de villages qui, dans les soubresauts de l'histoire et de l'exode rural, ont été abandonnés. Et pourquoi Horizon? Parce que l'écrivaine Gabrielle Roy y a planté le décor d'une nouvelle magnifique autour d'un personnage, Sam Lee Wong, un immigrant chinois venu s'installer en ce hameau, englouti dans le silence. Sans cesse le vent s'y engouffrait, ne rencontrant rien qui pût briser son élan. Je cherche longtemps, tournicote, allant et venant sur d'interminables chemins de terre qui s'enchaînent. Pas d'horizon en vue. Et pourtant tellement d'horizons. Tout à coup, une petite chapelle bleue et blanche se profile au haut d'une colline, comme une madone égarée, tandis que, de l'autre côté du chemin, un élévateur à grains décrépit gît dans le paysage, cathédrale effondrée. Horizon, fondée en 1912 avec l'arrivée du chemin de fer, avait déjà abrité une école, un bureau de poste, un café. Il a perdu sa superbe et son statut de village en 1973, retourné à l'indéchiffrable pays muet. J'essaie d'imaginer ce que fut la vie de ces immigrants, comme Sam Lee Wong, venus des quatre coins du monde, dont un grand nombre d'Ukraine, pour améliorer leur sort. Que sont-ils devenus? Leurs traces anciennes mûrissent dans la plaine comme le blé. Ici, ils vantent, c'est tout. Après Horizon, cap sur le parc national des Prairies, plus au sud, près de la frontière du Montana. Ce parc, éloigné des routes et des corridors aériens, vaste prairie sauvage de 900 km², serait l'un des endroits les plus silencieux en Amérique du Nord. J'y fais une halte. Un busard Saint-Martin glisse au-dessus des herbes. J'avance à pas feutrés, j'arrête de respirer, j'essaie de capter le silence du site, comme on capterait un papillon dans son filet. Matthew Mikkelsen, spécialiste de l'écologie acoustique, a enregistré l'ambiance sonore du parc, qui fut officiellement créé en 2001. Lorsque nous obtenons un intervalle sans bruit de 15 minutes et plus, on peut qualifier ce lieu d'exceptionnel. L'écologiste fait partie de la fondation Quiet Parks International, qui s'est donnée pour mission d'encourager l'établissement de réserves de silence dans le monde. Je rentre à Willow Bunch, les yeux vissés sur la jauge à essence. Je suis presque en panne sèche. En ce 20 mai 2024 de congé, tout est fermé, y compris les rares stations-service. Alors, mystère, je ne sais ni comment ni pourquoi, une femme dans mon champ de vision, à l'entrée du village de Rockland, tient une pompe à carburant dans sa main. Miracle! Teresa Guy, ma sauveuse, nous conversons. Le silence, pour moi, c'est ce pays habité d'oiseaux, de chevreuils, de tonnerres et d'éclairs. Il m'apaise. Ici, il vante. C'est tout. Bien arrivé à destination, après tout ce silence, un peu de son ferait du bien. J'entre au Jolly Giant, et oui, au Joli Géant, un peu le cœur de Willow Bunch, où se trouve une petite foule. Un musicien folk avec un chapeau de cow-boy crie son amour perdu en grattant la guitare. Les frites sont bonnes et la bière. C'était « Le silence de la plaine », un texte de Monique Durand, paru le 27 juillet 2024 dans Le Devoir.